Podcast.com. Essaye ça.
Le crachoir numéro 94. Et cette semaine, on a ramené notre chroniqueur émérite avec, je l'espère, une technologie qui va nous appuyer pour produire cette chronique-là. Ça a été difficile la première fois, mais on pense qu'on a, en tout cas, du moins partiellement, beaucoup réglé le problème. On va faire le test aujourd'hui parce que on a Jérémy Rivard, féru d'histoire, qui va nous parler du thème de ce crachoir. Numéro 94, c'est lui qui l'a choisi. Salut, Jay.
Salut, ça va?
Très bien.
Oui. Hey, oui, en passant, j'ai maintenant du kérosène pour mon ordinateur et puis toute ma patente. Là, fait que ça devrait bien aller.
Donc, tu as choisi pour cet épisode 94 oui. De souligner les films importants qui sont sortis en 94 parce que tu me disais que c'était une année particulièrement prolifique. Moi, je me rappelle juste de Pulp Fiction en 94, mais bon...
Mais les gars, c'était une année vraiment débile côté cinéma. Parce que tantôt, parce que j'ai comme choisi mon sujet pendant la journée, mais j'ai comme changé parce que je me suis rappelé la tendre année de mes 5 ans en 1994. Oui, j'ai 30 ans. Alors, plusieurs films qui sont sortis. T'as dit justement, Frank, Pulp Fiction.
T'avais 5 ans puis tu te rappelles de plus de films que moi.
Non, tu vas voir. Tu vas voir pourquoi. On se connaît pas beaucoup, mais je pense que c'est des films que t'as aimé, puis Martin aussi. Pulp Fiction, justement, comme vous avez dit, un classique. Il y a eu Shawshank Redemption qui est sorti.
Oh, quel chef-d'œuvre!
C'est l'année des chefs-d'œuvre. Et puis, le chef-d'œuvre de tous, moi, c'est un de mes films préférés, Forrest Gump, qui est aussi sorti en 94. Un film, oui, j'étais enfant. Alors, Le Roi Lion aussi est sorti en 94. Pour les plus nostalgiques. Et puis, je pense que c'est 25 ans plus tard qu'ils ont fait le remake là, que,
ouais, c'est,
qu'il y a
c'est
eu l'an passé.
Mais je me souviens, moi, même à 14 ans, Le Roi Lion, j'avais trouvé ça hot parce que c'était probablement la meilleure animation qui avait jamais été faite. On capotait tout sur la scène des gnous qui se lancent dans la vallée pour aller tuer le père lion, là. Comment il s'appelle? Là,
Mufasa.
Mustapha.
Mufasa.
Mustapha. J'ai failli dire Jafar. En tout cas, mais la scène des gnous qui courent de façon, tu sais, souvent dans des dessins animés, on va voir des gnous courir, ben ou ben peu importe, un troupeau de quelque chose, on va voir de la boucane puis 3-4 têtes, puis c'est comme ça que les animateurs s'en sortent faire de quoi puis que ça prenne pas 3 ans. Mais là, on voyait que chaque gnou avait été dessiné indépendamment, tu sais, puis qu'il y avait chaque gnou avait sa course, chaque animal avait son trajet, puis c'était désordonné, c'était très réaliste pour une animation en tout cas à l'époque.
Ben justement, tu sais, on peut dire que c'était comme un renouveau de Walt Disney parce que c'est le film encore aujourd'hui de Walt Disney qui a eu le plus de recettes au box-office, Le Roi Lion de 94. Dans le fond, ouais, Forrest Gump, je l'ai dit. Et puis là, justement, je tombe dans les films, pour moi, qui sont des classiques et que mon père m'a fait écouter à 5 ans. Je parle de 3 films de Jim Carrey qui sont Le Masque, Ace Ventura et puis le dernier, c'est Dumb and Dumber.
Toute la même année?
Toute la même année. J'ai fait des recherches. C'est vraiment la même année. C'était comme l'année Jim Carrey en 94. 3 classiques, 3 films classiques de Jim Carrey. Et puis Le Masque, je pense que dans ce temps-là, c'était mon préféré. C'est surtout, ben, où il y a aussi Dumb and Dumber, mais Le Masque.
Tellement.
Il y avait quelque chose dans ce film-là. J'étais jeune, j'avais un peu peur, mais en même temps, j'étais crampé. T'sais, c'est comme les mimiques de Jim Carrey, comment c'est un génie de ça. Moi, ça m'a beaucoup marqué, ce film-là. Là. Et puis après ça, Speed avec Keanu Reeves.
Hey, c'est la même année!
Ouais. La même année, en 94, un de mes films favoris des années 90, je dois l'avouer. C'est un film qui se passe dans un boss, mais en même temps, qui est tellement... T'as une poussée d'adrénaline, on dit, quand t'écoutes ce film-là. Je sais pas aujourd'hui, parce que, tu sais, aujourd'hui, avec les effets spéciaux, etc., on a justement des poussées d'adrénaline qui sont hautes, là, mais il me semble c'est un bon film, ça, en 94, Speed.
Ben, c'est une tension qui se construit à mesure que le film progresse, parce que plus ça va, moins il reste de temps, moins c'est possible de rouler à vitesse où ce qu'il faut qu'il roule. Je pense que c'est 88 miles à l'heure. Non, ça, c'est Back to the Future.
le continuum espace-temps.
Moi, ce que j'ai retenu de Speed, c'est la façon dont il décrivait le criminel. Je pense que c'était-tu Anthony Hopkins?
Non, c'était Dennis Hopper, le méchant.
Oui, je pense que
Dennis
Hopper.
En tout cas, il décrive comme ça, il dit « He's crazy, not stupid ». Puis c'est vrai que tu te rends compte, c'est ça, c'est vraiment ça le caractère du bonhomme. Là. Ouais, il est fou dans le sens qu'il va tuer tout le monde, mais c'était le méchant était brillant, était difficile à déjouer, puis ils l'ont eu avec un loop de caméra. Là. Spoiler alert! Ceux qui sont pas encore allés au cinéma le voir!
Ça fait 6 ans! Et puis, un autre classique qui est sorti en 94, Léon le professionnel.
Avec Renault, là, Jean Renault.
Oui, exact.
Ouais, avec Jean Renault.
Mais là, tu parles de la version française. Parles de la version française, Jay, là, j'imagine. La vraie version ou celle avec Natalie Portman puis Gary Oldman, là, en 94?
Je pense que c'est la version avec Natalie Portman.
OK. Là. Parce que ça s'était appelé Le Professionnel et ça avait été un film français, il me semble, pas avec Natalie Portman. Peux-tu?
C'était Jean Renault, c'est le cas?
Je pense que oui. Je me semble bien, je me semble que c'était un remake là, américain, là, un peu comme ils ont fait.
C'est la pochette Jean Renault des lunettes.
Ouais. Hey, non, mais pour de vrai, là, tu parlais de l'année de Jim Carrey aussi, là, Jay, là, je veux pas t'interrompre, mais avez-vous vu Jim Carrey dernièrement?
Oui, une belle barbe de
Ouais, il a l'air d'un Frank Pocket, mais c'est pas tellement ça, j'oublie le titre.
Il est riche et talentueux.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'était lui-même écrit un chèque d'1 million qu'il est en mesure d'encaisser, genre 12 mois plus tard. Là. C'est un grand fervent de l'auto-motivation. C'est vrai, ça, by the way, là, j'invente pas ça, mais c'est pas ça. C'est que, avez-vous vu le fameux documentaire où est-ce qu'on voit Jim Carrey là, quand il interprète Andy Kaufman dans
Andy,
Man on the Moon? Hey, si vous n'avez pas vu ça, allez regarder ça sur Netflix, c'est malade.
Mais il a passé. Assurez-vous d'avoir vu le film Man on the Moon.
Oui, c'est ça. Mais il a passé tout le tournage dans son personnage. Il faisait chier tout le monde. Écoute, il s'est littéralement transformé en Andy Kaufman, tu sais, pour toute la durée du tournage. Puis tu le vois là, tu sais, comme j'oublie le nom là de son fameux personnage de chanteur de Vegas là, j'oublie son nom là.
Tony.
Une affaire comme ça. Puis même quand il est dans ce personnage-là, pendant le tournage, il fait chier tout le monde. Il se promène avec un kart de golf, il fonce dans des chars. Écoute, il n'y a rien qui se passe. Vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. J'ai oublié le titre. Tapez Jim Carrey puis Documentary.
Andy and Me.
Ah, c'est ça. Bon, tu vois.
C'est sur Netflix, c'est disponible. C'est vraiment... Ouais,
c'est vraiment très, très bon.
Puis on voit la profondeur de l'artiste, justement, qui s'est immergé comme ça dans son rôle. Puis il explique toute sa démarche.
Il y en a des acteurs de même. Tu sais, mettons, tu penses à celui qui a fait Batman dans la dernière trilogie, le Christian Bale.
Oui, exact. C'est un peu de même.
Oui, c'est ça. Daniel Day-Lewis, c'est des intenses. Là. Ça a l'air que le pire, c'est Daniel Day-Lewis.
Comme j'ai de la misère à imaginer Christian Bale le matin avec ses enfants. Là, Tu prends les peanuts, tu t'es
Non, mais d'ailleurs, tu parles de lui, là, Jay, pour corroborer tes dires, là. Regardez le film Le Machiniste, là.
Exactement.
Hey, je pense qu'il pèse 130 livres dedans, ça n'a aucun sens. Un genre de De Niro dans
Taxi.
Dans Raging Bull, il pesait genre 230. Là. Il s'est isolé, il est parti en Italie pour manger des pâtes, genre, pendant 2 mois.
Okay,
pour avoir l'aide. Oui, pour avoir l'air de Jake LaMotta, genre à 60 ou à 55 ans, alors qu'il était devenu humoriste dans des tripots douteux. Écoute, là, il faisait du stand-up comique. Puis, hey, tout le monde, voici Jake LaMotta, t'entendais?
Applaudissements de golf.
C'est exactement, mais un fan, tu sais, là. Oh. Anyway, mais oui, t'as bien raison, Jay. Christian Bale, même dans American Psycho, même affaire, là, tu sais, c'est débile.
Mais le pire, comme je disais, Daniel Day-Lewis dans Gang of New York, là,
ouais.
Il joue le rôle du butcher, là, le boucher. Là.
Ouais, un de mes films préférés.
Ah oui, ça a l'air que pendant le tournage, un peu comme Jim Carrey, tu disais, avec Man on the Moon, là, il a été dans son personnage du butcher tout le long.
Ah, mais regarde.
Il excelle tellement dans ce rôle-là. Là, on y croit tellement à son personnage. Là, puis c'est un personnage qui est profond.
Ah ouais, c'est débile. Ouais. Moi, même là, tu sais, les Five Corners au début puis tout là, c'est t'as raison, Frank, c'est un nestifié de bon film.
Oh, c'est un grand film. Un film grand film. Je ne t'attendrai jamais de voir là. Tu sais, je peux le voir une fois par année toute ma vie, puis je serais pas tanné, c'est sûr.
Absolument. Très exactement. Cool. Mais là, écoute, là, Junior, on peut pas dire que t'as pas tapé dans le mille parce que là, 94, quand t'as
ça, regarde, je vais finir là, mais je vais juste les dire, OK? Entretien avec un vampire, True Lies avec Schwarzenegger, tu sais.
Attends, tu peux pas aller vite de même. Là. Entretien avec un vampire, quel film aussi!
Ce film-là, je me rappelle quand mes parents l'ont quitté, je pense que c'est peut-être 2 ans plus tard, tu sais, quand la cassette est sortie. Puis j'entendais, j'étais dans mon lit, là, tu sais, j'avais peut-être, c'est ça. C'est, mettons, 6-7 ans, là, j'entendais, tu sais, quand il suce le sang, là, t'entends le... Tu sais, d'entretien avec un vampire, c'était vraiment intense, ce film-là. Puis aussi, c'est tous des classiques, tu sais, il y en a là-dedans. Là. À date, là, j'ai nommé peut-être 6 classiques là, du cinéma. Tu sais, il y en a beaucoup, là, c'est sûr. Ouais, tu sais, moi, mettons, des films qui m'ont marqué, tu sais, le film des pierres à feu avec John Goodman. Là.
Ah, ben oui, ben oui.
Tu sais, le film en vrai, là, moi je dis ça, le film en vrai personnage avec.
C'était cool.
C'est-tu John Goodman, c'est ça?
John Goodman,
c'était
puis, cool. Rick Moranis qui faisait Arthur.
Exactement, exactement. Barney. Mais je vous dirais que la sortie, moi, qui m'a le plus marqué, puis qui a marqué ma vie en général par après, c'est pas un film, mais c'est le tome 3 de François Pérus. François Pérus. L'histoire de ça, OK? On est au Walmart à Rouen. Le Walmart à Rouen commence, là, OK? On est, dans la première, deuxième année du Walmart de Rouen. Et puis, mon père m'amène dans les cassettes, puis dans les CD, tout ça. Puis, tu sais, moi, j'avais mon nouveau Walkman. Puis là, mon père, il voit la cassette. Il sait pas c'est qui François Pérus, là, mais il voit la cassette. Puis, si vous vous souvenez bien, c'est la face de François Pérus sur une statue de la liberté avec un petit avion qui se promène. Tu sais, ça a l'air d'une cassette pour enfants. Tu sais, ça a l'air de, tu sais, comique.
Ouais, c'est la statue de liberté, mec, tu sais, photoshopper la face à Pérus, là.
Exactement. Puis, mon père m'achète ça. Ouais, c'est ça. Mon père m'achète ça. J'arrive dans le char, dans le grand âme, dans le pont grand âme de ma famille. Oh, je mets ça dans le Walkman, puis ça commence. Ça commence, puis par après, Pérus, je l'ai tout le temps suivi. C'est une de mes idoles dans la vie, garde. C'est indescriptible, l'œuvre de Pérus, honnêtement. Et puis, moi, j'aurais une demande spéciale, Frank, que j'en ai pas faite au dernier show que j'étais là, mais j'aimerais entendre une nouvelle fois le gars qui magasine des skidoux. Un beau petit niaiseux, un beau petit coco, un beau petit épin.
Skidou de l'idou.
Ouais, tu connais-tu bien ça, toi, Skidou?
Ça fait 20 ans que je suis dans motoneige, monsieur.
Ben, pis t'en as-tu d'autres à part celle que t'es dedans? Yamato, t'as-tu ça, toi?
Pour faire de la bonne motoneige, là, je vous conseille pas d'aller dans le japonais.
J'ai rien qu'à soir, le japonais en arrière, pis y aura pas de danger, hein? C'est combien, il est moins cher, là, petit coco?
Il est moins cher, c'est 200 forces, mais ça vire facilement sur le côté.
Si je veux pas tomber sur le côté, mais faut que je paye combien, là?
Ah, là, on tombe dans le 9000, là.
Ça fait qu'on tombe, anyway, finalement.
Mais c'est un modèle assez pesant, je vous recommanderais pas ça sur un lac, moi.
Recommande-moi-le dans ton magasin, ça va être moins de trouble.
Hein?
J'ai commencé à louer des chaloupes pour aller dealer un skidou, mais ça, mais... Salut! Petit coco fragile, ça. Il cogne la tête sur le mur un petit peu, puis craque, plus rien, là. Il est fini, petit coco.
Il est skidou niaiseux.
C'est que t'as dans skidou, toi.
D'autres, on tient juste des grandes marques.
Quel genre?
Comme par exemple le Super Snow Charger Avenger Ice Grinder Challenger Runner en couleur 850 GTIX Bullworker Speedbuster Tumult Starter Tombateur.
Ouais, on dirait comme toi, c'est une grande marque, ça.
Ouais.
Combien, ça?
15 000.
Il, tu payes le nom?
Ouais.
T'as pas ça, une plus petite marque, mettons?
J'aurais un 450 CTV.
Tu veux dire quoi, ça, CTV?
Ça, c'est le modèle, ça, que mettons, tu tombes en panne dans le milieu du bois, là.
Ouais.
Ben, CTV en maudit.
Pratique, ça?
Ouais.
Hey, tu vends-tu de l'usager, toi, mon beau petit plein d'avenir, là?
Un démonstrateur, mais il y a un défaut dessus, il part pas.
Ouais, les sauts, ça vient tu avec les skidous?
Non, on vend le skidou, puis la soute à part.
La soute à part?
Ouais.
Le skidou, il part pas, lui, là.
Ok.
Hey, mon skidou, il est pas parti, mais ma soute est partie du premier coup, j'étais assez content, moi, là. Toi, là. Hein?
Ouais.
Hey, tu fais-tu des plans, toi, genre, acheter maintenant et payer un moment donné, là?
Non, nous autres, c'est acheter maintenant, payer maintenant.
Ah, ouais, t'as pas ça, toi, partez maintenant et payer plus tard?
Non, nous autres, c'est partez maintenant et payer avant.
Ouais.
Ben, si vous payez pas maintenant, partez.
Ouais?
Ouais.
Et tu connais ça, le plan, raccrocher maintenant et acheter jamais? Non? Hey, salut. Ah ouais, un brochet au bout de la ligne quand tu vas à pêche, c'est bien le fun. Mais au téléphone, c'est dur. C'est dur, la vie. Pas facile.
Ah, motoneige enneigée.
Hey, t'as-tu ça, toi, des Snow Jets?
Ah, Snow Jets, ça a été vendu à Bombardier, ça.
Écoute bien, toi, là, ça m'intéresse pas de savoir ce qu'elle s'est acheté comme skidoo, elle, là.
Hein?
Je la regarde même pas à TV, elle. Hein? C'est que t'as, là?
J'ai un spécial, c'est un modèle full equip, là.
Ouais.
Un Mercury avec la jauge à essence électrique puis le klaxon, tout, là.
Ah, là, le klaxon, pas besoin de ça, moi.
Ouais, on dit ça, à un moment donné, dans le bois, tu rencontres un orignal, pis si t'as pas de klaxon, t'as la fou.
T'es pas obligé d'y dire?
Hein?
Le sais-tu, celui?
Ben,
à part de ça, il peut bien rire, lui, il n'a même pas de skidoo, lui. T'as-tu des bons prix, toi?
Êtes-vous dans un club?
Non, j'appelle de chez nous.
Là. Non, je veux dire, allez-vous d'un club de motoneige, vous autres?
Pas plus qu'il faut, là.
Ah.
Non, un skidoo qui danse tout nu, moi, ça m'en a.
Non, mais je veux dire.
Hey, buddy, sais-tu comment qu'on appelle ça une motoneige prostituée?
Non.
Une skidoune.
Ah.
C'est drôle, là. Et combien ton full equip, là?
8 000.
Puis toi, je suppose que tu fais une commission avec ça, là?
Ben, c'est sûr.
Bon, OK, fait que je vais le prendre, ton skidoo, là.
Parfait.
Puis la commission, ben, va me chercher une pinte de lait, ben, pain. Hein? Salut. Comment on fait de la raquette cet hiver, moi, là?
Ce qui est dur, c'est de faire du skidoo.
Oh, qu'est-ce que tu me conseilles d'un skidoo, là?
Bombardier 440.
Ouais, ça part tout le temps, ça?
Oh, oui, moi, j'en ai un, il est toujours parti.
Ah, oui, il t'envoie une petite lettre une fois de temps en temps?
Il est 12 000.
Coudon, ça augmente tout le temps, ces skidoo-là?
Non, j'ai un modèle que le prix reste toujours.
Comment ça?
Parce qu'il reste toujours au prix.
Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Non?
Je vais vous passer mon mécanicien.
OK.
Fred? Ouais. Allô?
Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Bon, plus avancé, moi, là. Oh, là!
Quoi?
Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? On laisse faire, je vais appeler ailleurs.
Alors, la motoneige?
Ouais, les skidoo.
Gardez la ligne. Un skidoo, on peut-tu laisser ça dans le cours? Oui, bonjour.
Qu'est-ce que tu as un skidoo?
Eh ben, j'ai mes nouveaux modèles, là. C'est vraiment super. Hein?
Ouais?
Oh, oui, c'est très bien. C'est...
Bon, bien, parle-moi donc de cela, toi, là, petit casque.
Eh ben, ça dépend. Est-ce que c'est pour un modèle familial, avec le petit chariot à l'arrière, là, pour vos gosses?
Coudon, pépère, tu penses-tu, toi, là, que je t'ai équipé comme Arnold Worcestershire?
Schwarzenegger!
Bon, il me semble. Attention, tout le monde, voilà la grande cinéphile.
Les casseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent.
Il y a une nouvelle drogue qui est maintenant qui a fait son apparition. On est en train de traverser une crise avec les opioïdes, notamment avec le fentanyl, qui est une drogue qui est responsable de plusieurs milliers de morts au pays. Puis là, il y a une nouvelle cochonnerie qui se promène dans la rue. Ça reste encore rare, mais comme toute drogue qui fait son apparition, ça risque de prendre de l'expansion, malheureusement, surtout dans ce cas-ci. Ça s'appelle, là, faut essayer de dire le nom comme il faut, là, de l'isotonitazène. Isotonitazène. C'est un opioïde de synthèse, un peu comme le fentanyl, mais c'est beaucoup plus puissant. Déjà que le fentanyl, on savait que, tu sais, la moindre surdose peut être fatale, là, tu sais, puis si la personne a mis une goutte plutôt que deux gouttes plutôt qu'une goutte, ou je sais pas comment est-ce qu'ils font ça, ces drogues-là, mais il y a des gens qui, avec une seule dose, sont morts d'overdose avec du fentanyl. Parce qu'on sait que c'est pas fait dans des laboratoires très, très professionnels, hein, puis les mesures, ils peuvent pas être toujours très, très exactes. Donc, le fentanyl a tué beaucoup de monde comme ça, ben là, c'est encore pire avec cette drogue-là. Pas qu'il y a plus de morts parce qu'elle est quand même rare, mais l'effet est encore pire. Puis, c'est présenté sous forme de comprimé de dilodide. Le dilodide, c'est une drogue qui est très puissante qu'on nous donne à l'hôpital souvent pour des douleurs intenses ou après une opération. Moi, je l'ai déjà eu une fois. Ça gèle, là. Je me rappelle que à l'époque, quand on m'avait donné ça, du dilodide, on m'avait dit, tu vois, tu vas sentir quelque chose, c'est une drogue très forte, tu vas t'endormir, genre, je vais essayer de rester réveillé, tu sais, pour la vivre, pour voir qu'est-ce que ça fait. Tu peux pas rester réveillé, en tout cas, pas moi, avec ce qu'ils m'ont donné à l'hôpital. Mais ça se vend pas mal dans la rue, cette drogue-là. J'imagine que pour quelqu'un qui est un toxicomane, l'effet est pas aussi puissant qu'il l'a été pour moi, qui consomme pas ce genre de cochonnerie-là. Mais ça se vend beaucoup dans la rue, comme beaucoup de médicaments legit qu'on trouve dans la rue. Puis dans bien des cas, c'est pas parce que c'est écrit le nom du médicament sur le comprimé que c'est vraiment ce que contient le comprimé. C'est le cas de ces pilules-là qui sont vendues comme du dilodide, mais qui sont évidemment une contrefaçon. Puis c'est pas du dilodide qu'il y a là-dedans. C'est de l'isotonitazène. Dans la rue, on appelle ça du Tony. Je sais pas si ça rend ça moins menaçant, mais si vous entendez ça, du Tony... Touchez pas à ça. Si quelqu'un vous propose des comprimés de dilodil, de Dilaudide et que dites non, tu touchez pas à cette marde-là, parce qu'il y a beaucoup de chances pour que ce soit pas du Dilaudide. D'ailleurs, à date, il y a eu un cas, tu sais, ça vient d'arriver là, un cas répertorié d'overdose au Québec, rien qu'un. Sauf que il y a ceux qui travaillent dans ce milieu-là, qui sont en contact avec ce qui se passe dans la rue, entendent pas mal d'histoires ces temps-ci. On parle de faux dilodides qui donnent des effets des effets indésirables, mettons là. Des drogues qui sont pas supposées, qui font des effets qui sont pas supposés faire. Des gens qui achètent du dilodide de contrefaçon dans, ben, de, disons, pas de contre, en tout cas, de contrefaçon, oui, mais eux autres, ils pensent qu'ils achètent du vrai dilodide dans la rue. Puis non, c'est une autre cochonnerie qu'il y a là-dedans. Il y en a que ça peut être du fentanyl carrément, mais de plus en plus, il paraît que, on nous dit qu'il y a cette drogue-là, le Tony, qui commence à s'immiscer dans ce milieu-là. Puis c'est difficile à détecter. Il y a des langues, il y a une petite invention qui s'appelle des languettes qui permettent de détecter la présence de fentanyl dans des drogues.
Un peu comme les douaniers servent, là, puis tout ça, quand on regarde des séries, là. Hey, je sais pas si t'entends le bruit. Je sais pas si t'entends le bruit encore, là. C'est la gratte qui va passer. Entends-tu? Tu sais, quand je te disais.
Pour vrai, c'est chez vous, ça?
Ouais. Mais j'ai une question, Frank. J'ai une question à te poser.
Juste sur la languette rapide qui permet de détecter le fentanyl ne marche pas avec cette nouvelle cochonnerie-là. Fait qu'il n'y a pas de façon de le savoir. Si c'est écrit dilodide, c'est la pilule. Premièrement, achetez pas de pilule dans la rue, mais ça, quand même, je vous dirais. Ceux qui en achètent déjà, ils arrêteront pas parce que je leur dis. Là, vous êtes des adultes, vous savez ce que vous faites. Vous faites des choix, là. Mais je vous dis, là, dilodide, méfiez-vous, parce que souvent, c'est pas ça qu'il y a dedans. Puis en fait, n'importe quoi qui est vendu dans la rue, vous pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. Puis cette drogue-là, le Tony, là, qui est entre 60 et 500 fois plus fort que de la morphine, puis qui peut être mortel dans des quantités là, minuscules, infimes, se trouve souvent dans ces comprimés-là.
Ce que tu viens de dire à propos de, tu sais, acheter pas de drogue dans la rue, mais tu sais, c'est évident que ceux qui ont des dépendances.
Des drogues en comprimé, là. C'est comme
ça me fait penser au film As Good As It Gets avec Jack Nicholson quand il va voir son psychiatre puis qu'il dit, là, il rentre, il a pas de rendez-vous, il est en panique puis tout ça, puis il dit à son psychiatre, pourquoi tu me reproches d'arriver ici de pas de rendez-vous quand c'est toi qui m'as diagnostiqué comme un anxieux chronique et emprunt à la panique et tu sais, tout ça, c'est normal que je fasse ça, là. Mais non, c'est une blague à part, non, c'est un. Mais moi, j'ai une question de niaiseux, tu sais, qui consomme pas ces affaires-là. Mm-hmm. J'entends le fentanyl, je comprends, là. Tu sais que c'est mauvais, puis touchez pas à ça autant que possible, s'il vous plaît.
Mais c'est mauvais, ça dépend comment c'est administré. Ben, plus tard, il y en donne, là.
C'est ça, fait que ça m'emmène à ma question. Ça, c'est prescrit à qui? Pourquoi? Ça sert à quoi? C'est un antidouleur? C'est quoi, là? Tu sais, comme de la morphine?
Je peux confirmer que c'est prescrit pour les anculoscopies.
Fait que toi, t'as déjà pris du fentanyl clinique, là, genre.
Oui, à l'hôpital, on m'a administré une drogue qui contenait du fentanyl. J'imagine que c'est pour que le mauvais moment qui est une anculoscopie passe plus vite. Et ça fonctionne, parce que dans ma tête, mon anculoscopie a duré 4 minutes. Puis, je me rappelle d'avoir... La dernière chose que je me rappelle avoir dit et cogité avant d'entrer dans la salle d'opération, en tout cas la salle de viol, je me rappelle avoir dit... Qu'est-ce que vous m'avez donné là? Ça fait rien. Je chantais rien. J'avais même pas l'impression d'être sous l'effet d'une drogue quelconque. Mais étrangement, j'avais du fun à arriver sur la table. Puis j'étais pas inquiet pendant tout. Puis.
OK. Fait que,
ouais, ça l'a beaucoup adouci mon expérience. Sauf que, évidemment, à l'hôpital, tu sais, c'est des quantités très contrôlées selon ton poids, selon les faits qu'on te donne.
Ça vient pas de dans la rue.
C'est pas un crotté avec une chienne en papier achetée au Canadian Tire qui fait de la chimie dans un camper dans le désert comme dans Breaking Bad, là, tu sais, puis je pense, je suis pas en train de dire que les compagnies pharmaceutiques sont hors de tout soupçon, là, au-dessus de tout soupçon, là, mais ne serait-ce que pour garder leur clientèle et leur crédibilité, ils font pas n'importe quoi quand ils font ces drogues-là. Puis les médecins, quand ils te prescrivent ça, OK, c'est peut-être un peu pour avoir un voyage dans le sud qui choisit une marque plutôt qu'un autre, mais c'est pas juste pour ça. C'est parce que l'effet a une certaine utilité dans un contexte médical, mais le dilodide, le fentanyl, c'est pas des drogues récréatives. Fumez donc du pot maudit, ça gèle en masse. Puis, si vous avez
plus
que ça, ben vous avez sans doute un problème qui n'est pas qui est à l'origine de votre consommation excessive, parce que je pense que dès que tu commences à consommer du chimique puis des pilules que tu sais pas ce qu'il y a dedans, c'est déjà excessif, tant qu'à moi, là. En tout cas, c'est du moins imprudent, là. Puis c'est tellement banalisé, les pilules aujourd'hui, la drogue en pilules. Quand ça a commencé, ça faisait un peu peur, mais les jeunes d'aujourd'hui ont grandi, puis ça a toujours existé. Puis faire des speeds, c'est comme manger des tic-tacs, hein. C'est comme banal prendre de la drogue en pilule pour les mettons ceux qui sont dans la vingtaine, parce qu'ils ont toujours connu ça. Moi, je me rappelle quand c'est apparu, tu sais, ça existait déjà avant moi, là. Mais quand ça a commencé à devenir à la mode, là, il y avait de l'ecstasy, il y avait du Nexus, des speeds, des affaires de même, chose qu'on voyait beaucoup moins avant. Puis à un moment donné, tout est sorti en comprimé. Puis là, tout ce que tu trouves à l'hôpital, tu peux le trouver dans la rue. Ben, en tout cas, tu peux trouver le nom dans la rue, comme dans ces fameux comprimés de dilodide qui n'en sont pas, qui sont pleins d'une autre cochonnerie qu'on pourrait facilement qualifier de poison, de l'isotonitazène. Je pense pas que ce soit utilisé dans le milieu médical. Si ça l'est, ça doit être extrêmement contrôlé, comme le fentanyl, mais c'est beaucoup plus dangereux que le fentanyl, et le fentanyl est déjà une drogue très dangereuse, d'ailleurs. Puis c'est drôle, parce que ça le monde panique pas avec ça. On vient écœurer de voir les pubs sur le fentanyl sur YouTube puis à TV, puis on dirait qu'on se sent pas touché jusqu'à ce qu'une personne proche de nous autres fasse un overdose ou ait des problèmes avec ça. Si on n'est pas touché, on dirait qu'on s'en sac. Mais on panique avec le coronavirus. Ah oui, c'est ça. Ben c'est une game de médias puis de peur d'inconnus. Puis j'ai de la difficulté à expliquer. En fait, je m'explique pas ce qui fait pourquoi on banalise les drogues.
Ben ça fait Ah, OK, parce que moi, je voulais juste te dire de quoi, Frank, que je trouve que tu as tellement raison. Tu sais, moi, je suis de la génération de fumer du pot, du hash, tu sais, tout ça, là, à l'époque où c'était pas légal.
Exactement.
Comme ça m'est arrivé à moi, comme c'est arrivé à un paquet de gens, tu sais, de m'en donner un soir sortir, puis tu sais, il y a du monde plus jeune avec toi, puis tout le kit. Tu sais, nous autres, on est là dehors en train de se rouler un bat, puis eux autres, ils pop des pilules, puis tu sais, c'est vraiment normal, là, tu sais, c'est comme...
Moi,
je me rappelle de la belle époque, tu sais, des pilules, du chimique, tu sais, on appelait ça du chimique, à part quelques exceptions.
Pis c'était juste l'acide, puis du PGP.
Mais tu touchais pas à ça, puis tu étais archi prudent, même si tu fumais du pot, tu t'en allais pas dans des affaires chimiques, dans même les deux yeux fermés, yes sir.
Chimique, entre guillemets, c'était ce qu'on appelait les gros drogués, là. C'était ceux qui vivaient dans la rue, puis qui étaient maigres, puis qui avaient les yeux dans le fond des orbites, puis que, tu sais, il y avait une image qui venait avec ça, là. Tu sais, je veux dire, tu prenais du chimique, t'étais un junkie, là. Sinon, tu
fais. Ouais, ben, c'est pas mal ça, ouais. C'est
normal, là, tu sais.
Ouais, puis là, ben, tu tiens que du monde un peu plus jeune que toi, ou d'une ou deux générations avant toi, puis là, ils en prennent toutes. T'es comme, ben, voyons.
Oh, ouais, ils prennent une speed avec une ecstasy, là, parce qu'ils aiment bien ce mélange-là, avec deux Red Bull puis quatre bières. Tu sais, ils ont leur recette, puis c'est banalisé, ils voient pas le danger, puis ils voient tellement pas le danger qu'il y a des milliers de personnes qui meurent d'overdose à chaque année. Tu sais, le coronavirus, je pense, c'est rendu à 500 morts ou 500 personnes touchées en Chine. Tu sais, c'est une population d'un milliard de personnes qui vivent les uns sur les autres. C'est quasiment un miracle qu'il y ait juste 500 personnes d'infectées, là. Mais déjà là, c'est la panique mondiale. Le monde a peur des Chinois. Ils ont peur d'aller manger du Chinois. Ils se mettent des masques dans la face. Puis c'est la panique générale, là. Mais
ici à Montréal, j'ai vu beaucoup de gens se promener un peu comme tu le vois souvent en Chine, là, moins
des masques. Au Japon, on voit ça. Mais au Japon, ils font ça par politesse pour pas éternuer les uns sur les autres, parce que les chemins, ils vivent proches les uns des autres. Je pense qu'ils paniquent moins que nous autres. Puis ici c'est la panique, fait que on met des masques tout ça, mais on semble pas réaliser que cette épidémie là, puis d'ailleurs toutes les supposées pandémies qui devaient ravager l'humanité puis que c'est pas arrivé, comme le H1N1, la grippe porcine, la grippe aviaire, le SRAS, on a tout paniqué avec ça, puis ça a tué personne ou presque personne, pas grand monde en tout cas. Mais les drogues comme le fentanyl tuent 13 000 dans les dernières années, là, dans les trois dernières années, 13 000 personnes au Canada qui sont mortes de ça.
Hey,
13 000 Canadiens dans les trois dernières années sont morts d'une overdose de drogue. Puis ça, c'est souligné par une psychoéducatrice qui s'appelle Jessica Turmel. Elle a dit si le coronavirus avait causé autant de décès, ça, ben, elle a dit, on en parlerait plus, mais moi, j'ajouterais, ça serait la panique générale.
Ben oui, puis tu sais, ça, c'est un
les
peu...
les maisons avec le boule, les portes en,
ben ouais.
Kiwi en bois placardé, puis avec le monde, ils s'achèteraient des bouteilles d'eau, puis des rations de survie, puis ils s'enfermeraient avec des guns s'il avait fallu que le
coronavirus
tue 13 000 personnes.
Ben non, c'est ça, c'est assez hypocrite, tu sais, justement, que, tu sais, il y a des trucs comme le fentanyl, tu sais, il y a plein de, tu sais, je t'ai raconté, je pense, l'anecdote, ou je sais pas si c'était dans ton show ou ailleurs, mais, tu sais, j'étais allé au Rockfest en 2000, il y a 3 ans, je pense, là, ou c'était peut-être la dernière année, puis tu sais, à plusieurs endroits où il y avait des, tu sais, des fonctions administratives, t'achetais un bracelet, des trucs comme ça, tu sais, il y avait des pancartes écrites, là, écoute, là, énormes, là, les caractères. Le fentanyl, c'est dangereux. Si tu fais le pas, viens t'en ici. Il y avait du monde là en permanence. Moi, j'étais comme là-bas, tu sais. Moi, j'étais le plus vieux, tu sais, en place, probablement. Puis, j'étais comme, hey, ça fait pas longtemps, là, tu sais. Puis, j'étais comme, mais quoi, c'est le fentanyl? Tu sais, c'était comme, tu sais, je veux dire, je correspond pas à la clientèle cible, assurément, probablement, de tout ça, là, malgré que tout le monde écoute. Mais.
Ah, mais les jeunes ne savent pas plus.
Je savais pas c'était quoi.
Ils disent, hey, il est bien bon, cet speed-là. Ah,
c'est de la dope, bien sûr. Ben, c'est ça. C'est un
il
peu ça.
Mais ce speed-là, il est pas meilleur, c'est autre chose.
Mais, tu sais, il y a eu y a un cas, j'ai regardé en début de semaine, il y a eu un cas répertorié d'un Torontois d'origine asiatique qui arrivait de la Chine, qui a peut-être été infecté par le coronavirus. Puis ça, ben ça défraye la manchette. Mais tu sais, le fentanyl, oui, on en parle, puis t'en parles, puis ben, ça arrive, on va voir un encore.
Personne n'en parle tant que ça.
Non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est l'autre affaire aussi qui arrive, là, j'imagine, là, puis tu peux peut-être me le dire, vu que tu as fait des recherches, t'sais. C'est que c'est sûr que sommes-nous rendus à l'étape où est-ce que, tu sais, dans le crachoir, mettons, tu pourrais recevoir quelqu'un qui a kické son addiction au fentanyl, t'sais. Le monde ne veut pas aller se vanter de ça. Là. C'est ça l'autre affaire aussi, là, sensibiliser les autres aux méfaits de ça. Tu ne veux pas aller sur la place publique et dire hey, « Moi, j'étais addict, ben raide, au fentanyl. » Non, mais
c'est pour ça qu'il faut donner, du temps d'antenne et de l'exposure, de la visibilité à des gens comme cette psycho-éducatrice Jessica Turmel, à des gens qui sont en contact avec ça. Moi, j'ai vécu longtemps avec une travailleuse de rue, une intervenante.
Ah ouais, c'est vrai.
En délinquance, puis je peux-tu te dire que j'étais au courant de
puis même à l'époque, elle te parlait-tu du fentanyl des fois? C'est ça, l'autre affaire
non,
qui est weird.
C'était pas encore le fentanyl, mais elle me parlait beaucoup de banalisation de la consommation de comprimé. Puis je me rappelle que à cette époque-là, Couche-Tard avait, je pense que c'est ça, les dépanneurs Couche-Tard avait sorti des boissons énergie, mais en pelule, pour profiter de cet engouement-là.
Ben, c'est-tu dégueulasse?
C'était dégueulasse. Elle était révoltée, ben raide.
Ben, je comprends.
Moi, je l'étais aussi. D'ailleurs, je l'avais reçu à mon émission à Go Radio X là-dessus. Mais oui, c'est ça. C'est fou, hein, comment les businessmen, quand il y a
des gens en jeu, c'est dégueulasse.
Contre-foot, là. Il profitait carrément de l'engouement des jeunes pour la drogue en comprimé puis en pilule pour vendre leur cochonnerie en pilule. Puis là, t'avais toutes sortes d'affaires. Je me rappelle d'une de ces pilules-là qui s'appelait la Excite. La Excite était supposée donner de l'énergie sexuelle, puis c'était tout du Red Bull, là. C'était tout des affaires qui réveillaient, là. Là, t'en avais une
comprimé
pour danser,
de
pour rire. C'était carrément des drogues légales vendues aux dépanneurs sous forme de comprimés pour ressembler aux drogues illégales parce qu'ils savaient très bien que c'était un marché très prolifique chez les jeunes, puis ils voulaient profiter de ça. Ça a disparu depuis le temps, probablement parce qu'il y a des gens avec un sens moral un peu plus élevé que les vautours qui ont voulu faire de l'argent avec ça, qui leur ont dit, ben là, c'est un peu, là, je peux t'exagérer un peu avec tes pelules, là. Vends-les tes cochonneries, ton Red Bull, introduction au speed, là, puis à la coke, là. Mais en pelule, là, tu vas un peu loin, là. C'est quoi la prochaine étape, là? En petite poudre avec une petite paille, là, sniffer votre Red Bull. Tu sais, le capitalisme a ce côté pervers, là, que la morale n'existe pas, puis seul le profit compte, même si c'est au dépens des enfants. C'est des mineurs qui achetaient ça, là. C'est des 14-15 ans qui achetaient ça, là.
La loi du portefeuille.
Hein, oui.
Puis des actionnaires, puis de tout ce que tu voudras. Mais t'as bien raison, c'est dégueulasse. Je me souviens d'avoir vu ce mot-là, Excite, là, pas loin des comptoirs, là, où ce qu'ils vendaient comment ça s'appelait dans le temps, là, des... les cigares aromatisés là, que les jeunes achetaient parce que je suis pas sûr si ça
prenait. Le tabou fraise là, puis au bonbon, ouais, la gomme ballon. Oui, c'est carrément des cigarettes à la gomme ballon, hey, les enfants. La gomme ballon, t'aimerais ça fumer, mais t'aimes pas le goût du tabac. On a quelque chose pour toi. De regarder ces cigares-là goûtent la gomme ballon, ta gomme ballon.
Oh yeah! Fais de la boucane comme papa!
Ouais, c'est ça. Sérieux, connais-tu des adultes qui ont fumé ça, ces affaires-là? Là? À part peut-être les Colts aux raisins, là.
Non, il y en avait un autre. Cherche le nom, là, puis je suis sûr qu'il y a des abonnés qui écoutent en même temps, puis ils disent ben oui, puis ils diraient non. Il y avait Time dedans, Honey Time ou un enfant
dans c'était ça, là. Ouais. C'était des cigarios. C'était la mode des cigarios. Oui. Cette mode-là est morte. Ça s'est essoufflé, heureusement.
Non, mais je pense que c'est devenu illégal, Frank. Je pense que c'était un dérivé du tabac dont la stratégie
de vente était pour les jeunes. J'espère qu'ils ont mis ça illégal tant qu'à faire des
niaiseries
comme mettre les paquets de cigarettes bruns. Hey, ça, en tout, puis moi, là, les paquets de cigarettes, il n'y a plus de logo, puis c'est écrit brun, puis il n'y a même plus de nom sur la cigarette, c'est d'un chiffre ou rien du tout. On s'entend-tu que ça, c'est le produit d'un comité lutte pour le tabac, qui ont plus d'idées, puis qui voulaient justifier leur job, puis justifier leur budget pour en avoir un, qui voulaient dépenser leur budget jusqu'à la dernière scène pour en avoir un autre l'année prochaine avec des gros jobs payantes. Maudit que ça ressemble à ça. Ça se peut pas qu'un être humain, normalement, constitué avec un cerveau fonctionnel, s'imagine que mettre les paquets bruns, ça va diminuer la consommation de tabac. Il y a plusieurs années, vous avez obligé les dépanneurs et tous ceux qui vendent du tabac à cacher ça dans des armoires. Qu'est-ce que ça change qu'il soit brun? Il est caché, le paquet de cigarettes, il est dans un tiroir fermé, il est plus visible. Qu'est-ce que ça change qu'il soit brun à place de la photo de cancer de la gueule que vous avez mis? Je veux dire, c'est là t'as le cancer de la gueule, puis le reste du paquet, brun, une ligne brune. La nouvelle innovation, c'est de mettre du brun en dessous de la grosse photo de cancer de la gueule. Sérieusement, là, êtes-vous sérieux? Là, pensez-vous vraiment? Est-ce que ça, c'est vraiment de la lutte contre le tabagisme, ou c'est juste, ouais, on n'a plus d'idée, on a pas mal tout fait ce qu'on pouvait faire à part illégaliser le tabac? Bon, on va tenter n'importe quel mal, parce qu'on aime ça avoir ce job-là, des petits comités, genre entre nous autres, faire 200 000 par année. Je sais pas combien est-ce qu'ils gagnent, mais ils sont trop payés, ça, c'est certain. Puis, ils ont plus d'idées, puis le maximum du combat contre le tabac, du côté du marketing a été fait. Si vous voulez aller plus loin, rendez le tabac illégal, mais arrêtez de nous niaiser, là. Puis arrêtez de prendre l'argent des contribuables pour prendre des décisions stupides comme mettre les paquets bruns, puis luttez donc contre le fentanyl avec cet argent-là, puis contre la nouvelle cochonnerie, là, le Tony. Tiens, je vais finir sur les drogues en vous donnant un conseil, pas une moralité, je vous dirai pas quoi faire, puis pas quoi faire. C'est votre vie. Si vous voulez vous empoisonner, ben, libre à vous. Je peux pas vous en empêcher. Je pense que je m'adresse à des adultes. Le seul conseil que je pourrais vous donner pour vous protéger, c'est que si vous consommez une drogue puis vous reconnaissez pas les effets, bon, pas bon, le fun, pas le fun, si vous ne reconnaissez pas les effets de la drogue que vous avez pris puis que vous prenez d'autres fois, ben inquiétez-vous, puis parlez-en à vos amis autour. Hey, j'ai pris quoi ce soir, puis... semble que c'est pas ça que ça fait d'habitude, je me sens bizarre. Dites-le à votre entourage, là, puis dites-le. Puis si vous sentez mal, ben allez à l'hôpital, parce que c'est il est rapidement trop tard avec ces drogues-là. Puis au moins, si vous en avez parlé à vos amis, quand ils vont vous voir inconscient sur le sol, ils vous diront pas juste ah, il est passé out, il s'est endormi sur la brosse. Ils vont peut-être se dire il est peut-être en train de faire une overdose. Parce que ça arrive, hein, des fois du monde. Ils font leur overdose, ils sont inconscients, puis leur chum, ils disent « Hey, gars, il est passé out, hein, il est passé out! » Puis là, ils s'amusent à écrire dessus avec un crayon feutre en pensant qu'il dort, mais il est en train de crever, puis ils s'en rendent pas compte. Fait que si vous consommez des drogues, puis vous reconnaissez pas l'effet, puis qu'il y a la moindre inquiétude, sans vous mettre à paniquer, parce que des fois, ça aussi, ça peut être un problème, mais mais parlez-en à ceux qui sont avec vous autres. Dites « Crime, je suis pas trop sûr de ce que j'ai pris à soir. Si je meurs, mène-moi donc à l'hôpital. » Vous pouvez le dire en joke, là, mais communiquez au moins aux gens qui sont avec vous que vous avez pris quelque chose de bizarre, vous n'êtes pas sûr.
Peut-être aussi juste dire aux gens avec qui tu es, là, tu sais, check-moi là un peu à soir, je me sens que j'ai pris de quoi, c'est weird ou tu sais, whatever. Là, juste que quelqu'un ait un œil sur toi, là, dans le fond.
Oui, c'est ça.
Puis informer une autre personne que toi-même. C'est ça, informer une autre personne que toi-même que t'as pris ça. T'sais, déjà, ben, juste là, petit filet de secours, là, regarde là, si mon body ou ma chum me regarde aller, puis j'ai l'air deux yeux dans le même trou, puis j'ai de la foam qui me sort de dedans la bouche, je fais quelque chose.
C'est en plein ça. Fait que c'est au moins, si vous êtes imprudent, ben soyez soyez le prudemment. Je sais pas comment dire ça.
C'est très bien dit, ça. Ah, il est pas question de fumer dans la maison, mais le cendrier il est dans l'armoire en haut, tu sais, genre. Tu botcheras pas partout.
Alors, sérieusement, là, soyez prudent. Là, on n'est plus dans le temps des drogues. C'est plus les drogues des années 80 et 90. Là. C'est plus. Non. On ne sait plus. Là, on ne sait plus. C'est un peu là. Puis même si votre pusher, vous le trustez bien gros, là, vous savez pas où il a pris ça. Il sait pas où que ça a été fait. Là. Lui, tu sais, si vous achetez ça d'un gars, ben, ce gars-là, il achète ça d'un autre gars. Hein? Puis cet autre gars-là, il achète ça d'un autre gars. Vous savez pas où c'est que c'est fait, puis par qui, OK? Vous le savez pas. Votre pusher le sait pas. Son pusher, son fournisseur le sait pas. Fait que soyez prudents, puis c'est tout de la maudite cochonnerie, ces affaires. Là, puis, non du pot, puis buvez de la bière. Puis c'est pas pire. Il me semble que je suis Chris. L'alcool, c'est fort comme drogue. Moi, c'est trop fort pour moi, en tout cas. Moi, je me saoule pas parce que je trouve qu'on peut perdre le contrôle. J'aime pas les drogues qui font perdre le contrôle. J'aime mieux fumer un petit joint puis garder mon cerveau en état de fonctionner. Il rit un petit peu, mais il comprend ce qui se passe. Puis il fait pas des affaires ridicules comme pogner le cul des filles ou se battre avec n'importe qui, comme j'ai vu tellement de monde faire sous l'effet de l'alcool.
Hein, ça ou bien si ton pusher, tu sais, acceptes de te fronter ta première shot de quelque chose, là. Oui. Tu sais, genre, ah, non, gars, essaye ça, là, ouais, combien je te dois. Mais non,
ça il est ça, gratis. Mais que tu en manques, ça va te coûter de l'argent, par exemple.
En général, c'est parce que c'est assez addictif relativement rapidement.
Ben oui, c'est
bien rare, ce c'est juste pour des. Ben ouais, puis c'est bien rare que c'est juste pour te décompresser après ta semaine de cul. Là.
Les jeux vidéo marchent de même aujourd'hui. Electronic Arts, ils sortent des jeux qui vendent pour presque rien, sauf que si tu veux être compétitif quand tu vas jouer online, il faut que tu dépenses 200$ de gugus pour ajouter à ton. Ou bien ton jeu est exceptionnel, mais il y a une map, il y a un tableau, puis si tu veux jouer aux autres, faut t'achètes les maps en ligne, tu sais. Puis mais voilà. Oui, il crée l'habitude, il crée l'addiction. Là, l'addiction, c'est pas un mot là, mais.
Et les revenus récurrents.
Ben oui, c'est ça. C'est quand votre pusher, même si c'est votre ami, vous fait un cadeau, dites-vous que c'est pas un cadeau, c'est un investissement à long terme. OK, on va y aller avec une toune, tiens, de contexte. Est-ce que c'est de mauvais goût? Je sais pas, c'est peut-être de mauvais goût, mais je vais en mettre pareil. Hein?
Quelle toune peut être représenter un contexte pour le sujet que tu viens d'aborder? J'ai très hâte d'entendre ça.
Ben, c'est peut-être de mauvais goût, mais j'ai quand même choisi Purple Pills de Eminem. Mischief with a trick up his sleeve. Pull up on you like Christopher Reeves. I can't describe the vibe I get when I drive by six people and five I hit. Aw shit, I started a marsh pit, squashed a bit and stomped the foster kids. These shrooms make me hallucinate. Then I sweat till I start losing weight. Till I see dumb shit start happening. Drumming that vanilla ice trying to rap again. So bounce, bounce, come on, bounce. I said, come on, bounce. Everybody in the house with a half an ounce. Not weed, I meant coke to master down. We don't bullshit, better ask around. We 12 throws the bomb is bad. Fuck that, someone help the nine. He's upstairs naked with a weapon drawn.
Hey, Vine, you see me stepping on these leprechauns?
It gotta be acid, cause the ex is gone.
Yeah, I took him off though with some Parmesan, and I think my arm is gone.
He's probably numb, dumb, and full of cum. And I think he about to swallow his tongue.
Scary ass, it was a false alarm. You think about to die when I just got on?
Well, stop acting stupid. You so high that you might wake up with a guy on some new shit.
Yeah, I think I did too much. This substance equals cuffs. Red pills, blue pills, and green. Big pills, masculine.
I take a couple uppers, I down a couple downers, but nothing compares to these blue and yellow purple pills. I've been to Mushroom Mountain, once or twice, but who's counting? But nothing compares to these blue and yellow purple pills.
30 dozen, 80 of us, shady brothers, ladies lovers. That's why our baby mothers love us, but they hate each other. They probably wanna take each other out and date each other.
Days. And when I'm holding weight, look for dope to bro. Aw, poor baby, born by a whore lady. Now I gotta struggle with I pop four E's at one time, and I don't need water when I'm swallowing mine.
Hey, you got it, true.
This bizarre smoke crap. I can't get jobs cause our arms show trash. Whatever you niggas think I rap, we do it just to get your company hijacked. And if you like smack, then I might too. I just wanna get high like you, and I don't give a damn if they're white or blue. Speed shrooms down the volumes, even smoke weed in a vacuum. I just cop some and I'm going back soon.
I take a couple uppers, I down a couple downers, but nothing compares to these blue and yellow purple pills. I've been to Mushroom Mountain once or twice, but who's counting? But nothing compares to these blue and yellow purple pills.
I'm at a rave looking like a slave, high on chronic. Gin and tonic, demonic, body smell like vomit. Pussy popping, acid dropping, dope heady guy. Heroin, mescaline, pencil legs, wanna try. Blue pills, golden seals, got bizarre, acting ill, drugs kill.
Yeah, right.
Bitch, I'm for real. Shut your mouth, you dirty slut. You know you want it in your butt, I put it in your gut. Lepers are not.
I'll take a couple of us. I down a couple downers, but nothing compares to these blue and yellow purple pills. I've been to Mushroom Mountain once or twice, but who's counting? But nothing compares to these blue and yellow purple pills.
30 dozen, 80 of us, city brothers, ladies lovers. That's why our baby mothers love us, but they hate each other. They probably wanna take each other out and date each other.
Crachoir numéro 94, l'année extra beurre à cause des grands films qui sont sortis dans ces années-là, comme nous ont été décrits tant bien que mal, en fait, par Jérémy, malgré moi puis Martin qui parle en même temps. Mais c'est ça le crachoir, des fois on crache un peu tous en même temps, puis ça donne ça. Martin, c'est ton moment de briller.
Ben écoute, je vais essayer de briller, mais ça va être difficile parce que je veux te parler de quelque chose, puis je veux ton opinion parce que écoute,
moi,
ça va
non,
être
moi, je suis quelqu'un de neutre, Martin, tu le sais,
ouais, je t'en as pas.
Puis tu sais que j'ai déjà été journaliste, hein, puis j'ai appris de cette expérience-là qu'il faut jamais donner son opinion, puis que l'opinion, c'est mal d'en avoir une. Il faut juste relater les faits et faire semblant de ne rien en penser.
Bon ben, je vais te relater un fait, puis moi, j'ai pas encore décidé de mon opinion. Et tu vas comprendre, OK? On n'en parlera pas à plus finir. Je vais te relater le fait en question. C'est que durant, pas loin, je pourrais pas dire l'heure exacte, là, parce que je regardais pas l'heure, mais je me suis fait prendre au jeu de regarder un petit peu, pas au complet, parce que ça m'intéresse pas assez, mais le Super Bowl, la finale du Super Bowl, parce qu'il y avait Louis Duvernay-Tardif dedans, premier Québécois qui aurait pu gagner le Super Bowl dans la NFL, tout ça.
Oh, moi, le golf.
Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que finalement, ils ont gagné 2-7-0. Mais non, sans joke, j'ai écouté la fin. Puis la Twittersphère, le lendemain, j'ai pas vu le tweet que je vais te lire. Peut-être que tu l'as vu, là. Peut-être que je t'apprendrai rien, mais j'ai vu passer, en fait, un tweet qui a été fait par, évidemment, la très connue animatrice québécoise, Penelope McQuaid, et qui traite très directement, en fait, du Super Bowl. Et je vais te le lire, puis... Avant de le faire, j'interpelle un peu tout le monde qui nous écoute, les abonnés et tout ça, parce que j'ai de la difficulté à me faire une opinion. J'ai un embryon d'opinion sur la chose. Fait que on se remet en contexte. On est à quelques minutes de la fin du Super Bowl. C'est clair que les Chiefs ont d'énormes chances de gagner à cause du score et tout ça. Et Penelope McQuaid sort un tweet et je le lis verbatim. Pendant qu'on s'excitera de minute en minute à la perspective d'une victoire des Chiefs, que notre adrénaline grimpera et que notre joie éclatera. Ayons une pensée horrifiée pour toutes ces femmes qui vivront exactement le contraire pendant que l'équipe de leur conjoint perdra, puisqu'elles seront victimes de violences plus que tout autre soir de l'année. J'ai lu le tweet. j'ai délibérément, parce que je me doutais bien que j'en parlerais avec toi, sûrement dans le show, j'ai délibérément pas lu les opinions de tout le monde, là, tu sais, le fil sous le tweet que j'ai vu, en fait, qui était un partage du tweet sur Facebook, là. Et parce que je voulais me faire une opinion, puis je pense à ça depuis que j'ai lu ce tweet-là, c'est lundi que c'est arrivé. Il est clair que j'ai déjà lu des trucs à l'effet que c'était une soirée, le Super Bowl, bon, on va se le dire, là, tu sais, on en a parlé même, c'est plus populaire que le hockey, c'est plus populaire que beaucoup de sports.
C'est plus populaire que Jésus s'y revenait.
C'est genre, c'est ça, c'est énorme. Fait que c'est clair, et j'ai lu des trucs qui confirment effectivement qu'il y a plus de cas de violence conjugale le soir du Super Bowl que l'avant-veille. OK? C'est un fait, là. Quelque chose qu'on invente. Moi, où j'en ai par rapport à ce tweet-là, c'est un peu... Puis là, ben, je suis prudent, mais pas l'opportunisme, mais la façon qui est composée.
Non, mais est-ce que dans ce que tu as vu sur ce phénomène-là, est-ce qu'on disait explicitement que c'était lié à la défaite de l'équipe du gars, ou ben c'est parce que tout le monde est sa brosse la journée du Super Bowl, puis tout le monde se saoule?
Ben, tu me voles un peu mon monde.
La drogue qui rend violent, l'alcool, là?
Tu me voles un peu mon thunder, parce que c'est là que je m'en allais. Il y a deux choses qui entrent en ligne de compte. On va dire ça comme ça, là. Et je ne suis pas un sociologue, j'ai pas moi-même fait des recherches là-dessus, là. J'ai lu des trucs, là. OK? Fait que j'ai lu un peu ce que pas mal n'importe qui lirait qui veut s'informer. C'est que, effectivement, il y a une relation causale entre les événements sportifs et la violence conjugale. Par contre, ce qui est pas mentionné dans le tweet de Penelope, puis c'est pas sa job, je comprends, là, elle a le droit d'écrire ce qu'elle veut sur son compte Twitter, c'est que, il faut aussi faire une relation causale avec le fait que ce sont des occasions au cours desquelles le monde boit plus.
Puis
il y a plus de facteurs conciliants, il y a plus de facteurs contributeurs, c'est-à-dire. Puis donc, ben, on peut également faire la relation causale que trop boire fait que ça peut également causer des escalades qui peuvent mener à des cas de violence conjugale. Là, c'est pas le Super Bowl, oui. En fait, c'est que le Super Bowl, oui, c'est une occasion où les gens consomment de l'alcool et peut-être trop de choses. Là. Mais tu sais, l'alcool, on peut s'entendre. Le commanditaire officiel, c'est Budweiser.
On fait une analogie pour le fun, OK? Entre le cinéma et les bars. Les deux, ça se passe le soir, à peu près dans les mêmes heures. Sauf qu'il y a beaucoup plus de bagarres et de violence dans les bars, mais il n'y en a pas dans les cinémas. Et si je suis Penelope McQuaid, je pourrais tirer la conclusion suivante. La musique pas bonne dans les bars rend les gens violents. Aller au cinéma.
Ben, écoute, c'est la sauce, je comprends.
C'est l'alcool, le dénominateur commun.
Fait que là, moi, je trouve que, tu sais, jusqu'à... puisqu'elles seront victimes de violences plus que tout autre soir de l'année, je n'ai rien trouvé, et je prétends pas que ça n'existe pas, mais tu sais, j'ai rien trouvé qui fait vraiment quelque chose d'empirique attestant du fait que le soir du Super Bowl, il y a plus de violence conjugale.
Puis comment tu peux savoir qu'il y a de la violence conjugale chez les partisans de l'équipe qui a perdu?
Ben, tu sais, il parle exactement, le gars, il va être
en brosse avec. Elle a fait la corrélation avec la défaite, là.
C'est ça qui me dérange. Tu vois, tu viens de mettre le doigt dessus. Ce qui me dérange, c'est... C'est ça. Pendant qu'on s'excitera de minute en minute à la perspective d'une victoire des Chiefs, que notre adrénaline grimpera et que notre joie éclatera, ayons une pensée horrifiée pour toutes ces femmes qui vivront exactement le contraire pendant que l'équipe de leur conjoint perdra, puisqu'elles seront victimes de violences plus que tout autre soir de l'année.
Oui, en tout cas, j'ai bien des maniaques de hockey, là, de football moins, là, mais je veux dire, ça doit être comparable. Là. Quand leur équipe perd, j'ai vu personne devenir violent là, ou vraiment être affecté profondément. Il y en a qui, oui, sûrement, parce qu'il y en a qui le sport est une religion. Puis il y en a peut-être aussi qui deviennent plus irritables, insupportables, peut-être même violents avec une défaite. Mais d'après moi, le facteur dominant là-dedans, je pense que c'est sûrement la consommation. Là. Avec la consommation d'alcool, il arrive toutes sortes d'affaires. Là. Les histoires de jalousie, puis deux gars qui causent la même fille, puis une fille qui est un peu trop amicale avec un autre gars, l'autre gars il est jaloux. C'est tout le temps des mots. C'est pour ça que je vais pas beaucoup dans les bars, parce que c'est toute cette espèce de dynamique-là. Puis,
ouais, mais tu sais,
je snick du monde sous quand je suis pas sous. Colin, c'est pénible.
Ben, je vais te dire ce qu'un lutteur a déjà dit. C'est la phrase suivante. C'est bien rare qu'il se passe de quoi de bien positif quand tu vas d'un bar.
Effectivement. Bon, si tu prends, si tu écoutes les récits de soirée de tous tous ceux qui sont dans le bar, c'est rare que ça. Tu sais, ils passent une bonne soirée parce qu'ils sont sous, là, mais il se passe rien de bon pareil, là. Tu sais, la seule affaire qui est agréable dans le bar, c'est l'alcool, puis c'est ça aussi qui rend ça désagréable. Le bar, c'est un prétexte pour consommer, là. Puis l'alcool, c'est une drogue pareil comme les autres, là.
Je comprends la motivation et le, tu sais, je suis convaincu que ça vient d'un bon endroit de la part de Penelope McQuaid.
Mais je pense qu'elle tire un peu côté de la cible. Là.
Elle est pas reconnue pour faire des tweets cryptiques, tu sais, à tout vent, là, tu sais, c'est clair. Puis qu'elle profite de cette occasion-là pour passer un message qui tient à cœur. Aucun problème jusque-là. Mais tu sais, ça va être quoi? Ça serait quoi la prochaine étape à ça? Ça serait dire, pendant que vous êtes à votre 5 à 7 et que vous festoyez la fin de votre semaine, n'oubliez pas qu'il y a un gars sous qui va rentrer chez eux après le 5 à 7, va t'approcher sa femme. Tu sais, tantôt tu parlais d'analogie, ça peut en être une aussi. Tu sais, fait que ça fait, tu sais, peut-être.
C'est son lien avec la défaite que je trouve boiteux, là.
Équipe a perdu, tes chums t'ont écœuré, t'as perdu ton pool, tu sais, whatever, là. Tu vas te venger sur ta femme. Je ne banalise pas, là. Comprends-moi bien. C'est peut-être le timing du tweet, tu sais. Peut-être que si elle avait fait un tweet, puis elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Je suis pas en train de dire quoi faire. Mais je fais juste soulever le fait que moi, ça m'a fait me questionner beaucoup sur la pertinence et le timing du tweet en question. Parce que si le lendemain du Super Bowl, elle avait sorti un tweet qui disait « Félicitations à Louis Duvernay-Tardif, blablabla, félicitations aux Chiefs, premier Québécois. Il est quand même important de mentionner également que là, c'est qu'elle décide de le faire. Tu sais, je sais pas, il reste 2 minutes dans la game. Tout est tout dedans. Tu regardes le Super Bowl, là, tu fais comme « tu sais. Mais je comprends pourquoi qu'elle l'a fait là. C'est là que ça a plus d'impact. Puis regarde, je t'en parle.
Oui, son timing est bon, mais je pense juste que sa conclusion est à moitié boiteuse, parce que si effectivement il y a un phénomène de violence, mais c'est ça, c'est qu'elle attire une conclusion, moi j'en tire une autre, qui de nous deux a raison, on ne sait pas, là. Il y a peut-être
une autre
qui pourrait nous le dire, mais moi j'ai plus de facilité à faire la corrélation entre la consommation et la violence et la défaite et la violence. Parce que, oui, je pense que ça se peut qu'un gars, justement, il soit irritable après que son équipe ait perdu, ses chums ont ri de lui, tout ça. Mais je pense que s'il est à jeun, il va juste se coucher de mauvaise humeur. Mais s'il est c'est là qu'il l'alcool, c'est le gaz qui vient raviver le feu de tes plus bas instincts, soit sexuel ou soit, tu sais, puis ça sans parler de violeur, là. Tu sais, des gars qui creusent un peu trop intense, là, puis 2-3, c'est la même fille, puis qui s'essaye, puis qu'il une rivalité animale qui s'installe, puis commence à faire des commentaires, puis ça a pas d'allure, puis pognage de cul, puis tu sais que ça va trop loin. C'est toujours l'alcool du monde qui autrement se retiendrait, puis qui serait capable d'être plus civil. L'alcool fait disparaître tout ça parce que les inhibitions disparaissent.
Oui, c'est clair.
Hein, l'alcool, on se sent capable de péter à gueule à n'importe qui.
On est d'accord que on n'a pas à se poser de questions à savoir s'il y a une corrélation entre la consommation d'alcool puis la violence conjugale.
On n'a pas à se poser de questions. C'est Penelope McQuaid, probablement.
Oui, sûrement. Puis écoute, là, comme je te dis, Penelope McQuaid, c'est une professionnelle. Tu sais, si elle a mentionné que c'est ce soir-là qu'il y en a le plus, elle a probablement vérifié. Elle n'a pas garoché ça c'est ça. C'est que fait que là, ben, mon sujet cette semaine, c'était bien plus ce que le tweet de Penelope m'a fait et ce sur quoi je me suis questionné que le tweet en lui-même, parce qu'elle a le droit de tweeter ce qu'elle veut, là. Tu sais, je suis pas en train de dire à Penelope, fais plus ça, s'il te plaît, c'est pas ça pantoute. Sauf que, en même temps, tu veux passer un message, tu vas essayer de le passer, au moment où tu vas avoir grabé le plus d'attention. Ça aussi, je le comprends. Puis Penelope McQuaid est reconnue pour être une bonne tweeter. Fait que, c'est pas ça, là. Sauf que là, ça fait-tu avancer le débat réellement? Peut-être, parce qu'on s'en parle tous les deux. Mais, c'est ça. Je trouve que, tu sais, donc, est-ce que ça règle le problème à la source ou ça sensibilise les gens? Peut-être. Par contre, ben, tu sais, c'est que là, tout événement va être propice à dire, ben, oubliez pas, là, hein, c'était le fun, Canadien, ils font un playoff. Ouais, mais
ça va être ça pour le rock. Ça va être
mais
ça
les, fans du, les fans de Toronto, ben, tu sais, il y a des femmes, il y a certaines de leurs femmes qui vont subir de la violence. Tu sais, j'aime pas l'association entre le sport lui-même.
Pis, non, mais c'est parce que, je veux dire, regarde, je vais parler d'un autre événement, ça va peut-être te pincer même un peu parce que ça vient de ton coin, là.
Le
festival du camionneur Notre-Dame du Nord, là.
Je suis d'accord avec toi.
L'événement, bon, c'est des vannes, puis ils font des courses, puis ils montent des côtes, puis après ça, ils font de la boucane, puis ils font du bruit, puis ils font de la lumière, puis ça tourne autour des camions. Mais il y a tellement d'agressions sexuelles lors de cet événement-là que nous autres, en tout cas, entre nous, on appelait ça le festiviol, OK? C'était pas un joke pour rire, c'était un peu pour dénoncer ça, mais il y a quasiment plus de viols que de troc au festival du camionneur. Là.
Ah non, c'est fou.
Des agressions épouvantables. Puis ils sont vraiment pas toutes rapportées par les médias, ils sont même pas toutes comptabilisées. Mais toutes sortes d'affaires bizarres. Là.
Les spikes de drink, on parlait de fentanyl tantôt, puis tout. Là,
ah oui, c'est beaucoup là.
Ils
ben oui,
spike
ben oui.
Le drink, puis là, ben, ils tombent sans connaissance, puis ils se réveillent le lendemain, puis ils ont été agressés. Pis, ah oui, c'est dégueulasse. Pis, c'est dégueulasse.
Depuis une couple d'années, il y a un phénomène bizarre où que, genre, plusieurs hommes entourent une femme, puis là, il arrache son linge, il taponne un peu de partout, puis après ça, tout le monde se disperse, puis là, la fille est là, puis elle s'est faite toucher partout, puis elle a des doigts partout, son linge est tout déchiré sur elle, puis tout le monde se disperse, part chacun leur bord, puis ça se fait en public, ça, là. Ça existe, là. Ça arrive dans des événements comme ça, mais est-ce que c'est les trocs? Est-ce que c'est la mécanique qui cause ça? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la mécanique puis le viol? Ben non, c'est encore la consommation d'alcool, puis de drogue, puis de gens un peu débiles. Puis d'ailleurs, ça se passe au Québec, mais proche de l'Ontario. Fait que dans ce temps-là, quand il y a un événement comme ça qui se passe au Québec, proche de l'Ontario, l'Ontario se dépêche d'envoyer un troupeau de ses pires débiles. Je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais c'est toujours comme ça. J'ai vécu en Outaouais, je l'ai vu en masse. Les bars fermés à 2 heures en Ontario. Fait que les Ontariens, les pires, pas les meilleurs Ontariens, pas tous les Ontariens, les pires, traversaient la rivière, ils venaient sur la promenade du portage pour finir leur brosse, puis ils se battaient avec tout le monde, puis ils faisaient de la merde. Même à Québec, Québec, c'est même pas proche de l'Ontario, mais pendant la semaine de la relâche, il y a des autobus qui arrivent de l'Ontario, puis Colin, ça se bat dans les estrades des arénas, puis dans les bars, puis maudit, ils font du trouble. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ma théorie, c'est qu'en Ontario, t'as tellement le droit à rien faire que t'es comme un chien en laisse. Puis ceux qui ont des chiens savent de quoi je parle. Si ton chien a jamais été attaché, tu peux le laisser sur ton terrain, il se sauvera pas, il fera rien. Mais si ton chien, tu l'as toujours attaché, t'as toujours tenu en laisse, il a jamais eu de liberté, dès que tu l'échappes, dès que tu oublies de l'attacher, il va se sauver loin, puis il va se défouler pour toutes les fois où il a pas pu, pour tous les temps où il a été emprisonné, avec une liberté restreinte. Ben, Colin, quand il y a une chance de se sauver, il se sauve. Mais attachez jamais votre chien, il ne se sauvera jamais. Ben, Colin, les Ontariens, pas tous, ceux qui viennent au Québec, tu sais, faire de la marde, on peut le dire comme ça, là, en québécois, là. C'est des chiens autrement à l'est qui viennent de se faire détacher. Puis ils ont l'impression de pas être chez eux, puis qu'ils ont... D'autres, on est un peu plus lousses sur certaines affaires. Tu sais, dans les festivals ici, on peut souvent se boire, se promener avec notre consommation, avec notre verre de bière. En Ontario, il y a une tente à bière, tu bois là, puis tu bois pas sur le reste du site. Tu promènes pas avec ta bière sur le reste du site. Fait que quand ils arrivent, eux autres, à Québec, puis c'est la Saint-Jean, puis ça boit dans les rues, Colin, hein? C'est lâche-lousse, là, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a ce phénomène-là, là. C'était tellement fort en Outaouais que ça a fermé presque tous les bords de la promenade du portage. C'était rendu tellement violent à cause de ce phénomène-là. Fait qu'à Notre-Dame-du-Nord, il y a ce facteur-là. Puis, évidemment, c'est facteur alcool. Je suis sûr que tu prends toutes ces mêmes personnes-là, Québécois et Ontariens, t'es réunis à une place, puis qu'il n'y a pas une goutte d'alcool, puis qu'il n'y a pas de drogue qui se consomme. Puis je suis certain qu'on a... On a droit à un spectacle très civil. Mais c'est pas ça qui se passe. On fait jamais la corrélation qui crève les yeux entre l'alcool et ces comportements-là. On essaie tout le temps de trouver une autre raison.
Pendant que tu parles de ça, tu vois, quand je faisais mes recherches puis sur le tweet de Penelope et tout ça, ben j'ai trouvé, en fait, il existe un site américain qui s'appelle Snopes, qui est un peu une espèce de démystificateurs de fake news ou en tout cas de nouvelles. Puis tu vois, dans une étude qui a été publiée au tournant des années 2000 avec ces 10 années d'événements sportifs, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation causale entre les grands événements sportifs et la violence conjugale.
OK, fait, c'est même pas fondé à la...
La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait que ça ait changé de 2001 à 2019. 2020, excuse-moi.
Je pense pas que ça ait changé tant que ça. Là.
Bon, puis l'autre affaire...
Ça pognait autant avant que ça pogne là.
Ben, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que la conclusion qui en a été tirée, bien qu'il y ait eu d'autres, bien qu'il y ait eu d'autres gens qui ont prétendu le contraire quand même, puis qui étaient relativement pseudo-fiables, là, je te dirais, là, tu sais, des sociologues, des trucs comme ça, mais, tu sais, pas mal tout le monde semble s'entendre pour dire qu'il n'y a pas de relation causale, de un. Et de, puis là, c'est pas moi qui le dis, je fais juste vous lire, c'est quelque chose que j'ai lu, là, non, mais, comme ça, ouais. Sur le fly.
Mais c'est un fact-check qui est important, là.
La conclusion était plutôt, si on la résume en une phrase, de dire un homme violent, il va être violent. Là. C'est pas le Super Bowl, va le rendre plus violent.
Ça. Ça va être n'importe quel prétexte. Puis l'alcool va libérer ça facilement.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je ne banalise pas l'espèce de d'objectif de Penelope McQuaid. Je banalise pas ça parce que, tu sais, on s'entend que le pourcentage d'hommes qui mangent des volées, il n'est pas comparable à celui des femmes qui subissent des violences.
En violence conjugale, bien sûr que non. Premièrement,
bon, c'est ça.
Les hommes sont plus
violents. Je te parle de violence physique, c'est ça, physique, là, tu sais, puis tout ça. Puis je peux aussi te dire que, tu sais, avec podcast.com, on fait un podcast qui s'appelle « Ma vie amoureuse de marde », puis on a reçu un homme qui, lui, tu sais, un col, écoute, là, évident de violence conjugale qu'il a subi, là.
OK, lui, il est
ça existe. Mais tu sais, regarde, je t'en parle comme si c'est quelque chose de rare et de rarissime, c'est pour ça qu'on en parle. Fait que ça fait juste attester du fait que ce que je dis, là, c'est que...
Ben, il y en a, plus... là, mais c'est puis, étonnamment, c'est assez
beaucoup
répandu,
moins.
La violence conjugale envers les hommes, mais c'est même pas comparable, là.
Ben non, du
en
tout.
Rien, en rien.
Fait que, tu sais, ça confirme un peu que j'avais une espèce de pseudo-malaise, de sentiment de lourdeur, par rapport à ce tweet-là.
Trouver des coupables, puis accuser, puis tout trouver des solutions. T'sais, bon, regarde, on a l'explication, là, c'est le Super Bowl. C'est comme à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui fait une tuerie aux États-Unis, ça veut dire à tous les semaines, là. On essaie tout le temps de trouver une raison autre que... Ouais. La violence, point, ou puis
les jeux
vidéo aux armes. C'est les jeux vidéo.
C'est
Marilyn Manson. Puis même au Québec, on est comme ça. Quand Kim Virgil a fait sa tuerie ratée, là, parce qu'il n'a pas réussi à tuer grand monde. Bonne, excellente chose d'ailleurs. Mais on est allé voir qu'est-ce qu'il écoutait. Puis là, il écoutait à tout le monde de Megadeth. Puis là, bon, on est allé écœurer Dave Mustaine avec ça.
Imagine.
Non, mais c'est ça qui s'est passé pareil. Puis je me rappelle à TVA, là, il parlait. Le tueur écoutait beaucoup cette chanson « À tout le monde » de Megadeth. Et on est allé voir cette œuvre du groupe Les Megadeth. Et il essayait, tu sais, Colin. Puis c'est pareil avec les jeux vidéo, là, tu sais.
C'est capoté.
Pis c'était pareil aussi avec le... T'en rappelles-tu, dans les années 80, là, il a fallu que Dee Snider aille parler au Sénat, là, pour expliquer tu sais, là, c'était juste le rock and roll at large qui rendait violent. Puis à un moment donné, là, c'était plus ça. Mais là, il a sorti des groupes un peu plus extrêmes. Puis Marilyn Manson est arrivé. Puis là, c'était rendu à cause de lui. Puis là, il y a des jeux vidéo qui sont rendus pas plus violents. Ils l'ont toujours été, mais sont rendus plus réalistes. Fait que là, on s'imagine que les jeunes veulent vivre. Ils font pas la différence entre le jeu vidéo puis la réalité. Non, ça, là, c'est si votre jeune fait pas la différence entre le jeu vidéo puis la réalité, c'est parce qu'il y a une maladie mentale, là. Mais il y a personne qui va trouver la motivation de tuer du monde dans la vraie vie parce qu'il a joué à un jeu vidéo où ce que tu tues du monde. Si vous croyez ça, là, hey, vous avez tort, mais vous avez tellement tort, là. C'est vous êtes déconnecté, là. Allez lire un peu là-dessus, whatever, mais... C'est
non, mais
on aime ça trouver des coupables. On veut pointer quelqu'un du doigt ou un phénomène ou quelqu'un, sa musique, son jeu. C'est de sa faute. Ah, c'est le sport, cette maudite affaire de macho. Ah, c'est le maudit jeu vidéo violent. Ah, c'est le groupe de musique, là. Il dit des affaires violentes, là, pis il tripe sur Satan, là, tu sais. Ben non. Le problème de la violence, c'est les individus violents. puis c'est souvent des hommes, puis l'alcool va décupler ça, puis la drogue va certaines drogues vont décupler ça, puis d'autres drogues vont désamorcer ça. Ceux qui mettent toutes les drogues dans le même panier, vous faites fausse route aussi, parce que ça veut dire que vous n'avez pas sorti beaucoup dans la vie. Vous n'avez pas vécu grand-chose si vous pensez que toutes les drogues ont le même effet, là, parce que vous avez certainement vu, si vous êtes sorti un peu, vous avez certainement vu des gosses battre parce qu'ils étaient sur l'alcool, mais des poteuses battent.
Non, c'est drôle à regarder même. C'est même drôle à regarder
Mais même si ça y est, puis ils veulent se battre, ça va finir, plus la merde.
Ça finit sur YouTube, c'est ça.
Mais oui, non, c'est mais, ça.
Le pire, en fait, aussi, Frank, là, c'est au-delà du fait que, tu sais, là, il semblerait que, tu sais, c'est pas une donnée empirique, là, puis tout ça, c'est que, c'est exactement ça, c'est que, fait que là, c'est le Super Bowl à soir. Fait que oubliez pas, là, hein, il y a des femmes, tu sais, les femmes victimes de violence, ils vont en avoir plus à soir. Fait que, tu sais,
un sport. T'aides
en quoi? Ouais, mais t'aides en quoi, là? Tu sais, je veux dire,
Non, mais c'est pour elle qu'elle fait ça. C'est comme quand le monde, il envoie des thoughts and prayers, des pensées, nos pensées et nos prières pour les victimes de l'ouragan. Ah, mais regarde, tes pensées et tes prières, les victimes de l'ouragan, ils reçoivent pas, là. Tu veux aider, donne de l'argent. Puis fais-les donc anonymement si c'est vraiment ton intention, c'est d'aider. Si tu dis, toutes mes prières et mes pensées, te fends ta gueule, tu te fais de l'autopromotion, tu veux juste avoir l'air vertueux et gentil. Mais si vraiment tu avais une intention sincère d'aider ce monde-là, tu donnerais de l'argent à la Croix-Rouge, Colin. Tu dirais pas de écrire nos pensées, nos prières, ou bien marquer « Je suis Charlie », ou bien mettre la saveur du mois à côté de ta photo de profil, un petit ruban pour le cancer rose. C'est de la merde, ça. Si tu veux aider là le cancer, ben envoie de l'argent à un centre de recherche. Faites des dons, puis fermez votre gueule avec ça, si c'est ça votre intention. Si votre but, si vous faites juste donner des affaires gratis qui vous demandent ni effort, ni argent, puis que c'est juste une belle phrase sur votre photo de profil qui vous fait paraître plus humain, ben vous êtes des hypocrites. C'est bien dommage. Là. Mais moi, quand je vois quelqu'un, oh, c'est marqué non à la violence conjugale sur sa photo. Qu'est-ce que ça change? Rien. Souvent, ça met en valeur la personne qui l'a dit. Puis je pense que la mode est à ça. Puis peut-être que Penelope McQuaid, je veux pas, tu sais, je peux pas y faire un procès d'intention. Peut-être que c'était vraiment d'aider. Mais si c'était ça, ben peut-être pas, OK? Fait que peut-être que les gens, ben je pense aussi que les gens en sont venus à penser que c'était ça la bonne chose à faire pour aider. On nous parle tellement qu'il faut sensibiliser, puis il faut en parler, puis tout ça. Oui, mais c'est pas magique. Puis ça accomplit, en réalité, ça accomplit pas grand-chose. Pas grand-chose.
Fait qu'écoute, tu sais, j'ai comme pas mal complété ma réflexion là-dessus en t'en parlant, mais c'est ça. T'sais, je doute fort que ce soit de l'espèce d'opportunisme pour aller chercher des clics non plus puis du tweet.
Non, bêta, non, je pense que c'est juste un réflexe. Je pense pas non plus de sa part. Il dit, je vais me mettre ça à map. Ben non, elle est déjà sa map. Elle connaît, elle a pas besoin de ça. Là. Mais je pense que c'est devenu le réflexe de faire ça.
Ben, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, quelqu'un
pour qui... Charlie, là.
Ouais, puis quelqu'un pour qui cette cause-là est importante, et ça devrait être tout le monde, là, mais tu sais, bon, à certains degrés, il y en a peut-être pour qui ça l'est plus. Mais là, ils ont vu ce tweet-là passer, puis ils disent, ah ouais, hein, c'est ça, mais ouais, c'est sûr. Tu sais, puis là, ben, garde. Fait que.
Ben, je comprends. Si c'est pas vrai, surtout si c'est pas fondé, son affaire, ben, si c'est des études qui sont biaisées, ben, c'est parce que même si son intention est bonne, ben, tout ce qu'elle va avoir accompli avec ça, c'est de la désinformation.
Je tiens quand même à dire que.
Puis j'haïs le football. Je veux pas défendre le football, j'haïs ça pour mourir.
Mais je veux dire, je me garde quand même une petite réserve parce que ce que le site a utilisé pour répondre à cette supposée fake news-là, ça date quand même un peu. Fait que tu sais, je suis prêt à donner le bénéfice du doute. Je n'irai pas à la guerre avec
des études.
C'est ça. Mais c'est ça. Ça m'a laissé. Puis tu sais, je dirais que de ce que j'ai lu après un petit peu des réactions des gens que tu sais, des plateformes, et non pas des gens, mais les plateformes qui ont partagé ça et qui ont un peu commenté, sont tous un peu d'accord, tu sais. C'est une corrélation assez qui sert pas mal le propos, là, tu sais. À la limite, tu sais, fais un topo dessus, tu sais, dis gars, peu importe, elle a le droit de mettre ce qu'elle veut, mais en tout cas, ça m'a un petit peu.
Tu as le droit de pas être d'accord puis de l'exprimer ici.
Voilà. Puis là, ben écoute, on est dans la sélection des choix douteux de tounes, justement, parce que je vais faire un segway avec ta toune douteuse de ton segment, avec l'Open qui a discuté de cinéma avec... c'est pas un film qui est sorti en 94, j'ai même pas vérifié, mais on va mettre la chanson « Friday night's a great night for football ». Et c'est, en fait, c'est interprété, pas interprété, mais en fait, ça fait partie de la trame sonore du film que j'ai toujours bien aimé, qui s'intitule « The Last Boy Scout », avec nul autre que le Bruce Willis.
To run wild. Nah, Friday night's a great night for football, y'all. The cats and the stallions ready to do it. Friday night's a great night for football. Sit back and relax and let's get down to it. It's gonna be a hell of a fight. We got a great night of football.
Le crachoir 94, celui de l'année Popcorn Extra Beurre. Martin, reste la poutine puis le mash-up?
Ben écoute, je suis déjà excité du mash-up parce que tu m'as envoyé le pacing du show et je l'ai même pas vu. Fait que ça va être
vrai. Ok, fait que tu sais pas c'est quoi
de encore? En tout, aucune idée. Commençons tout de suite par remercier évidemment nos patrons que sont... Danny Boivin, président d'honneur. Gabriel Landerman, je ne connais pas cette personne, je présume que tu la connais, toi.
Quelqu'un qui me suit sur Facebook, on se croise souvent.
OK, non, moi, il y a une personne dont le nom est SICAM, S-I-C-A-M-E.
Ah, c'est SICAM, oui, non, je sais c'est qui.
C'est tout écrit comme ça, parfait. Et bien c'est sûr...
Je pense qu'elle est au Nouveau-Brunswick. C'est une fille, allô?
Ben, merci beaucoup.
Une amie.
Bon, ben puis notre Woodbreaker production nationale, Mathieu Brisebois.
T'es encore pogné à l'hôpital, maudit, ils vont-tu te lâcher?
J'espère qu'au moment où tu nous écoutes, Woodbreaker, ben écoute, qu'on apporte un léger baume sur ces moments plus difficiles pour toi. Puis on pense à toi, fait que lâche pas.
Ouais, puis si tu nous écoutes à l'hôpital, j'espère qu'on t'a fourni la drogue nécessaire pour rendre ça plus agréable.
Ah, puis fais attention pareil, parce que les autres, ils vont tous te fronter, hein, fait que reste prudent. Mais non, c'est pour te faire rire que je dis ça. Bon, nos pensées t'accompagnent et on te souhaite de sortir de là le plus rapidement possible et avec le moins de mauvaises nouvelles possibles, puis que tout aille bien. Ceci étant dit, évidemment que vous savez également que vous, si vous êtes en train de nous écouter sur Radio H2O les jeudis 20h, on est bien content. Évidemment que nous sommes disponibles en téléchargement sur toute bonne plateforme, c'est-à-dire Google Play, Spotify, Apple Podcast. Écrivez crachoir plus podcast, puis vous allez trouver une façon de nous écouter sans aucun problème, définitivement. Merci. Je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool que Jay soit revenu aussi. Vraiment très intéressant. Puis oui, évidemment qu'il fait un peu d'autopromotion, mais allez voir ça sur La Terre des Hommes. Allez voir les éditions Derniers Mots. Très cool. Il faut pas oublier que, tu sais, bien que on se considère une petite organisation, podcast.com, puis tout ça, là, tu sais, dans le cas de ce que Jay fait, là, on l'aide beaucoup, mais Jay, c'est un créateur indépendant, là, puis pas, je parle pas juste de son podcast, là, sa maison d'édition, là, c'est tout tenu à bout de bras, puis il y a une couple de partenaires qui donnent un coup de main financier, mais écoute, c'est vraiment cool. Fait qu'encouragez vos créateurs de contenu québécois, que ce soit nous autres ou qui que ce soit, on s'abreuve tous à la même enseigne, et c'est vous. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, écoute, moi, je suis prêt, Frank, je suis prêt pour le mash-up. Là. Je garde,
non, attends, non, t'es tu pas peux. Prêt. Personne peut être prêt pour ça.
Je veux juste commencer par bien mettre la table, OK? C'est quoi le titre?
Ouais, je vais te dire le titre, puis tu vas me deviner les artistes.
Parfait, j'adore ça.
5 Minutes of Fame.
5 Minutes of Fame?
Ouais. Tu connais okay, les deux tunes, tu connais les artistes.
C'est Maiden puis Bowie.
T'en as un de bon puis c'est Bowie. Fame, c'est bon.
Mais c'est pas 5 minutes.
C'est pas 2 minutes, c'est 5 minutes.
Ah, c'est 2 minutes, ok, je me trompe, ok.
2 minutes to Midnight de Iron Maiden, okay. Mais c'est pas ça.
Ok.
5 minutes.
5 minutes.
Ajoute 3 minutes, c'est pas dur.
Ben là, j'écoute. Non, ok, ben écoute.
Si je te dis 5 minutes alone.
Ah, ben, c'est un band que je connais pas ou un titre de tune que je connais pas.
C'est une tune que tu connais d'un band que tu connais et que tu reconnaîtras, même si c'est mélangé à du David Bowie. C'est 5 Minutes Alone de Pantera.
Oh, OK.
Que tu vas reconnaître.
Ah oui,
même
c'est
si
sûr.
C'est savamment agencé à du David Bowie. C'est quand même bien fait, sinon je vous le présenterai pas. Et
Faut raconter du backstage, OK?
Vas-y.
Faut que je vous raconte à toutes les fois qu'on enregistre le crachoir, qu'est-ce qui arrive après. C'est que là, on fait la poutine, blablabla. Tu sais, il y a toujours une pause entre les deux. Puis en général, moi, quand on arrive, on va se le dire, là, en ce moment, on ne vous dira pas l'heure, mais il est relativement tard, pareil. Tu sais, quelqu'un qui travaille la semaine, puis tout, là. Frank a un horaire un petit peu plus nocturne, là, de travail, là. Mais à toutes les fois, qu'est-ce qui arrive? On fait le close du show. On dit c'est quoi le mash-up, on rit du mash-up, puis là, on parle des deux tunes, puis c'était écœurant, vous allez voir, nanana. Là, on finit le show, puis là, ce qui arrive tout le temps, c'est ça. Là, ce qui arrive tout le temps, des fois même, on reste ensemble là dans le logiciel qu'on se sert pour enregistrer à distance, puis là, on se garoche des mash-ups. Tu sais, je vais écouter le mash-up, mettons, qui est dans ce show-là, puis là, je dis, hey, attends, putain, vous voulez. Hey, des fois, on passe une heure, se dire des mash-ups.
C'est un combo du meilleur mash-up.
Attends, tu vas voir, check bien celle-là. Hey, garde ça, Ozzy, puis les Jackson 5, puis des heures. Écoute, c'est n'importe quoi, là. Ça arrête plus, puis ça arrête plus. Un peu comme les soirs dans les anciennes moutures, dans l'ancienne mouture du crachoir, way back when, où des fois, on consommait en très légère dose des affaires. Légal maintenant, puis qu'on faisait des « Oh yeah! » Et on faisait ça genre une heure de temps, mais là, on était ensemble, fait que là, c'était d'un gros système de son. Puis là, Frank, il mettait des effets sur la bord, c'est n'importe quoi.
Les micro-condensateurs, puis les moniteurs, puis on s'amusait à faire des effets de voix. Ben, vois-tu, c'est ça qui arrive quand tu fumes du pot, tu tapes pas sa gueule, tu fais des « Oh yeah! » pendant une heure en rien des effets de voix.
Tu essaies de trouver des mash-ups pour savoir si la mienne est plus grosse que la tienne pendant un an.
Mon mash-up est plus long que le tien. Mon mash-up bande plus dur que le tien.
Ça devrait faire déjà une heure que je dors, tu sais, mais non, j'écoute des hosties de mashup sans arrêt. Puis là, on s'envoie les liens, puis on les écoute chacun notre bord, puis on se regarde la face parce qu'on les entend pas. Puis en tout cas, c'est bien drôle.
Voir qu'on finisse par faire des mash-up originaux du crachoir, je pense que j'ai le goût d'en faire. Il y en a pas assez avec des artistes québécois. Ça pourrait être comique ou bien des covers ou bien des versions qu'on pourrait s'amuser à faire.
Hey, attends un peu, toi, là, on a un concept. Là.
On fait l'oiseau version black metal.
Non, mais dans tous les abonnés du crachoir, là, il y a des musiciens là-dedans, là. Tu sais, je pense à Matragueg, Travadragueg, là, tu sais, je sais pas c'est quoi son nom, Matraesque, machin, tu sais, qui anime un show métal.
Oui, Matrac, en tout cas, c'est très difficile à prononcer.
C'est vraiment délibéré, en plus, son crise de nom. Je pense à Woodbreaker, qui fait de la production musicale, je pense à un paquet.
Faites-nous du Paul Piché.
Ah oui, faites-nous un mash-up, Paul Piché, Cryptic Debt, mettons. Ça serait que. C'est quoi déjà ton nom fake de band, là?
Oh,
Dive, Jesus in the Mud, puis.
Ouais, je sais plus, je l'avais inventé un, là, mais. Il suffit de mettre des mots sataniques et dégueulasses ensemble, puis écrire ça pour que ça ait l'air d'un paquet de racines qui traînent à terre, pour que ce soit illisible, puis c'est ça.
Ah ouais, c'est ça, mais. Non, mais sérieusement, là, moi, je prends. Puis je suis sûr que Frank, t'es d'accord, là. Bon, pas bon, là. Envoyez-nous votre mash-up. La condition, faut absolument qu'il y ait un artiste québécois dedans.
Ouais.
OK? Ça me dérange pas que tu le mash-up après ça avec Europe, avec Maiden, avec Judas Priest, avec n'importe, avec Beyoncé, n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait un artiste québécois dedans. Le défi est lancé. On veut vos créations right now.
C'est ce qui conclut cet épisode du Crachoir numéro 94, l'année extra beurre. Donc là, voici ce fameux mash-up de Pantera avec David Bowie, 5 Minutes of Fame. My words are what deceiving.
membre de la famille H2O Web Media.